On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, comme chaque soir sur France Bleu, pour votre émission de confidence, d'échange, de papotage, comme vous voulez. Chaque soir, on choisit un thème et chaque soir, vous venez nous en parler avec passion. Et le thème de ce soir, les mystères du ciel. Oui, je sais, c'est très mystérieux. Hein. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous êtes passionné par tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes. On pense aux planètes, aux étoiles, aux nuages, aux orages, aux ovnis, même pourquoi pas. On est ensemble jusqu'à 22h et on va rêver grâce à vous sur France Bleu.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et on a la tête dans les étoiles ou dans les nuages ou dans la lune, comme vous voulez, ce soir sur France Bleu, puisqu'on s'intéresse à tous les mystères du ciel, les phénomènes naturels ou un peu plus complexes. Et on va démarrer cette émission en parlant de météo en compagnie de Christophe à La Rochelle. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Vous êtes un météorologue, comme ça, amateur. Ça a commencé comment, votre passion pour la météo?
Oh, bah, écoutez, moi, ça a commencé tout petit, déjà. Hein. Donc, tout petit, collé à la fenêtre, dès qu'il y avait des phénomènes, dès qu'il se passait quelque chose. Donc voilà, ça m'a pris très très tôt.
Mmh, Et vous avez commencé à prendre des notes, à faire des statistiques quand vous étiez petit?
Oui. Petit, je tenais mon petit classeur, mes petites feuilles, je faisais mes petits graphiques, je relevais la température, j'allais faire mes petites balades en vélo après une tempête, des petites choses comme ça.
Waouh. Et aujourd'hui, maintenant que vous êtes grand, ça continue, mais différemment peut-être?
Oui, bien sûr. De toute façon, déjà avec l'avenue d'Internet, qui a permis aussi de rencontrer aussi d'autres personnes passionnées et puis d'exploiter un petit peu plus cette passion à travers la photo, les réseaux sociaux et puis autres.
Vous faites des prévisions météo aussi?
Oui, je propose sur ma page Facebook des prévisions tous les soirs, donc la veille pour le lendemain. Donc voilà, avec une carte et puis un petit texte. Et puis tous les locaux au moins du département et même autres d'ailleurs en France du coup me suivent.
Comment vous faites alors, Christophe? Vous êtes équipé comment? Comment on fait des prévisions météo? Comment on travaille? Comment on c'est une science hein, finalement la météo? Comment ça marche?
Oui. Mais écoutez, c'est pas évident comme ça à expliquer. Moi je regarde des cartes, des modèles, hein, des modèles de prévisions sur Internet. Donc c'est des calculateurs. Qui génèrent des cartes, on va simplifier comme ça, et donc qui sont accessibles hein, au public sur certains sites. Donc ça permet d'accéder à certaines données et paramètres qui peuvent ensuite être lus entre guillemets pour pouvoir faire des cartes et établir une prévision.
Vous avez jamais voulu en faire votre métier?
Si, bien sûr. Malheureusement. J'ai pas pu, déjà scolairement et puis et personnellement, j'aurais aimé. Donc du coup, je m'investis à fond dans cette passion.
Ouais, c'est-à-dire que vous savez tout sur les mouvements du vent, sur les dépressions, les anticyclones, ça, y a pas de mystère alors, pour vous.
Bah alors tout, peut-être pas, hein, puisque de toute façon on en apprend tous les jours et de base c'est pas mon métier. Mais je m'y intéresse énormément par passion, donc du coup on en apprend tous les jours. Et on va dire que les bases, en effet.
Vous faites quoi de toutes vos prévisions? Est-ce que vous archivez tout ça en vous disant, tiens, peut-être que dans quelques années, on saura quel temps il faisait en 2017 à côté de La Rochelle?
Bah, écoutez, j'archive, oui, effectivement. Et puis justement, c'est notamment archivé aussi, en tout cas pour le moment, sur Facebook, puisque chaque prévision que je poste, du coup, reste... sur la page, et donc une fois qu'on est sur la page Facebook, on peut retracer les différentes images ou textes.
Bon alors, qu'est-ce qui nous attend là pour les prochaines semaines, les prochains mois? On parle beaucoup là des seins de glace, il faut laisser passer les seins de glace, il y a des dictons aussi beaucoup en météo. Est-ce qu'on aura un bel été? Est-ce que ça on peut le prévoir ou est-ce que c'est trop tôt?
Mais pour moi, c'est des choses beaucoup trop difficiles. C'est ce que j'explique à chaque fois. Déjà que les prévisions à une semaine, 10 jours
sont
d'une fiabilité médiocre. Alors donner des prévisions plusieurs mois à l'avance, on a des petites idées puisqu'il y a des modèles de prévisions qui proposent des tendances à plusieurs mois. Mais ça reste d'une fiabilité très faible.
Bon, le printemps va arriver quand même, rassurez-nous.
Oui, on va encore avoir des petits épisodes comme ça de redoux très temporaires avec l'arrivée de perturbations derrière et puis de rafraîchissement. Bon, c'est le printemps, ça fait le yo-yo.
Ça s'en va et ça revient. C'est ça.
C'est ça.
C'est le printemps. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été avec nous sur France Bleu. Un petit coup de pub, tiens, au passage, pour votre page Facebook. On vous trouve comment?
Bah écoutez, vous pouvez me retrouver sur Météo La Rochelle, hein, en tapant Météo La Rochelle sur Facebook.
Bah voilà, comme ça c'est fait pour les Rochelais, ceux qui habitent en Charente-Maritime et au-delà pour ceux qui veulent vous découvrir et voir un petit peu comment ça marche. Merci encore, Christophe.
Bah écoutez, pas de soucis. Merci bien.
Bonne soirée à vous, au revoir.
Merci, bonne soirée, au revoir.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Jusqu'à 22h, on rêve, on plane, on s'émerveille. On a appelé cette émission les mystères du ciel, le ciel et ses mystères si vous préférez. Et on va carrément aller dans l'espace maintenant en compagnie de Marilyn. Bonsoir Marilyn.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de l'école de Boissière dans le Gard et avec votre classe, vous avez vécu un moment incroyable il y a quelques semaines avec Thomas Pesquet puisque vos élèves ont pu discuter avec lui.
Oui, tout à fait. Alors, c'est pas uniquement ma classe. En fait, nous sommes un RPI, c'est un regroupement pédagogique. Nous sommes deux écoles qui travaillons ensemble et c'est toute l'école donc où je suis, à Boissière, qui a eu la possibilité de... Enfin, qui travaille sur l'espace et deux classes, donc des enfants qui ont été donc pris dans ces deux classes des un peu plus grandes de l'école, qui ont pu avoir le privilège de parler à Thomas Pesquet.
Ça veut dire que ça s'est préparé comment tout ça? Parce qu'on ne devient pas comme ça l'école choisie pour discuter avec Thomas Pesquet. Ça a été avec une candidature à proposer. Comment ça s'est formalisé tout ça?
Oui, tout à fait. Alors c'est donc l'année dernière. Nous avons la chance d'avoir un papa qui est radioamateur et donc qui a vu passer la possibilité de concourir en fait pour parler avec Thomas Pesquet. Et donc, il nous a soumis l'idée. On avait 15 jours, parce qu'on arrivait à terme, donc on avait 15 jours pour préparer le dossier pédagogique et technique.
C'est chaud, 15 jours, c'est chaud. Hein.
Oui, c'était très chaud. Donc, on a dit banco, on l'a fait. On a travaillé, voilà. Donc, nous, les enseignants, on a travaillé sur le côté pédagogique, bien sûr. Et puis, donc, on a envoyé tout ça à l'ESA. Et puis, en juin, nous avons... appris que nous avions été sélectionnés. Voilà, donc ça c'était l'année dernière. Et depuis le mois de septembre, donc la nouvelle rentrée, bien tous les enfants travaillent sur l'espace, la connaissance du ciel, voir comment on communique. Et puis donc le fait de communiquer avec Thomas Pesquet, il y avait quelques petites notions à connaître, hein, notamment un petit code, par exemple over. Donc on entend tous les enfants sur notre site qui, une fois leur question terminée, disent over. Voilà.
Over, pour dire ça y est, l'intervention est terminée. Ça veut dire que c'est une année entière au rythme de Thomas Pesquet, au rythme de l'espace. Vous vivez Thomas Pesquet toute l'année à l'école?
Tout à fait. Alors on vit, on dort, on parle Thomas Pesquet. Oui, c'est un peu ça. Effectivement, depuis le mois de septembre, toutes les classes s'activent sur la connaissance de l'espace, du système solaire, les astéroïdes. Enfin voilà, donc les parents jouent le jeu également. Noël a été fructueux en cadeaux sur l'espace, combinaison d'astronautes, etc.
Génial.
Et puis voilà, et nous travaillons depuis le mois de septembre et ça sera jusqu'au mois de juin effectivement sur l'espace, la connaissance de l'espace, et ça touche à tous les domaines. Donc on travaille aussi bien en art plastique, mais en français quand il faut formuler des questions ou faire des poésies sur Thomas Pesquet ou lui écrire une lettre. On va travailler sur les mathématiques, sur les sciences, enfin bon voilà.
C'est plus facile d'apprendre justement quand il y a un projet comme celui-ci, c'est plus ludique aussi pour eux.
Alors, c'est ludique, c'est porteur, évidemment, puisque c'est... En plus de ça, bon, le fait de parler à Thomas Pesquet, c'était quand même l'aboutissement, et ça tombait à peu près en milieu d'année, donc c'était très très bien, puisqu'on pouvait travailler avant, et on continue de travailler après, d'ailleurs. Mais oui, c'est très très porteur, c'est vraiment un fil conducteur qui passionne les enfants.
Alors, il y a des questions de vos élèves qui vous ont fait sourire ou qui vous ont surpris. Elles étaient déjà prévues à l'avance, j'imagine, les questions.
Oui, alors nous les avons bien sûr travaillées avec eux. Bien sûr, ça fait l'objet de travail en français, d'oral, d'écrit, enfin, etc. Et donc, il a fallu d'ailleurs les remanier pour qu'elles soient le plus courtes possible, parce que nous n'avions que 10 minutes pour parler à Thomas Pesquet. Ouais. Voilà, oui, l'ISS va à 28 000 km/h, et donc on a juste, dans le meilleur des cas, 10 minutes pleines pour pouvoir lui parler et communiquer. Donc, il fallait que ce soit effectivement très court. On avait 20 enfants à faire passer. Donc on avait sélectionné 10 enfants de notre école qui est la plus petite, là où il y a les enfants les plus petits, et donc 10 enfants aussi dans l'autre école où les enfants sont un peu plus grands.
C'était quoi les questions par exemple? Qu'est-ce qu'ils ont demandé à Thomas Pesquet?
Alors, pour exemple le plus petit, qui avait 4 ans, il a demandé « Est-ce que tu manges bien ?» Bon, ouais. Ça, c'est une question toute simple. Est-ce qu'il fait nuit dans l'espace? Bon, ça, c'était vraiment pour les enfants les plus petits. Mais on leur a laissé cette incertitude. Et puis alors, on a, pour les miens qui sont en CP, est-ce qu'il pleut dans l'espace? Est-ce qu'il y a des radiateurs dans l'ISS? enfin, voilà, des petites questions amusantes. Après, on a eu des questions plus élaborées avec les plus grands, bien sûr. Sur, par exemple, si les expériences qu'il faisait, à propos des expériences qu'il faisait, etc.
Voilà. À quoi ça sert? Et il a bien répondu? Il est vraiment à l'écoute des enfants? Oui, il comprend?
Oui, alors c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement disponible. D'ailleurs, on nous demandait de le tutoyer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fallu revenir d'ailleurs toutes les questions. Et en plus, c'est quelqu'un d'effectivement très accessible. Et alors, nous avons eu la chance, parce que nous étions la première école à pouvoir le voir en simultané. C'est-à-dire qu'on l'entendait, mais on l'avait aussi en vidéo. Et donc, ça a été une prouesse technique de l'équipe, justement, de Fabrice Faure, qui a tout monté et qui s'est occupé de tout le côté technique. Et donc, on a eu la chance de le voir à l'écran. Et alors, ça, c'était un moment absolument fabuleux pour les enfants, parce que c'était concret. Ils le voyaient, ils leur parlaient, ils les regardaient, et en même temps, on le voyait en apesanteur. Donc, c'était extraordinaire.
C'est magique. J'en ai des frissons. J'aurais tellement aimé avoir 8 ans et être dans votre classe. Merci beaucoup, Marilyn, d'être venue sur cette belle aventure éducative avec vos élèves et avec Thomas Pesquet. Et bonne fin d'année scolaire avec les planètes et tout le reste, hein.
Ben, je vous remercie beaucoup.
À bientôt, Marilyn.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Le soleil, les planètes, la lune, les étoiles, le ciel, les orages, les autres habitants de l'univers même, hein, on peut en parler. On parle de tout ça sur France Bleu dans On se dit tout, avec toutes les jolies choses au-dessus de nos têtes que l'on voit à l'œil nu et puis parfois en cherchant un petit peu plus. Et c'est un artiste que nous allons accueillir maintenant. Il s'agit de Philippe dans l'Aisne. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir Vanessa.
Alors vous, Philippe, vous êtes inspiré par la lune pour vos créations. C'est le cas aujourd'hui dans votre travail de sculpteur, mais ça l'était aussi avant quand vous faisiez de la musique.
Oui, tout à fait. Donc la lune, en règle générale, hein, c'est la reine de la nuit, hein, sauf les soirs de la nouvelle lune, hein, où elle est noire. Donc moi, personnellement, c'est un astre qui me fascine, que je trouve troublante. C'est un astre capable de projeter l'esprit dans les territoires inconnus des rêves et des fantasmes. Et donc moi, ça me nourrit par rapport à justement ma création.
Mais ça vous nourrit à quel niveau? C'est-à-dire que c'est quand vous la voyez, ça vous inspire quelque chose, ou il y a une influence de la lune sur votre création? Comme on dit que parfois la lune influence les humeurs, influence les marées, il y a plein de choses comme ça en rapport avec la lune.
Oui, tout à fait. Bah, effectivement, l'influence la vie de nous tous, hein, sans qu'on en soit forcément conscient. Donc effectivement, comme vous l'avez rappelé, il y a le phénomène des marées, donc nos humeurs, nos émotions, et moi, en ce qui me concerne, oui, je ressens une influence, comment dirais-je, je ressens son essence. Donc cette essence, quelque part, alimente ma source d'inspiration, et donc ma démarche créative. Mais ça nourrit aussi ma réflexion sur ce que j'appelle le palpable et l'impalpable.
D'accord. Mais vous représentez pas forcément la Lune dans vos créations.
Pas forcément, non.
Non, elle vous inspire, mais ça s'arrête là. Elle vous aide.
Oui, voilà, elle m'aide. Bon, après, effectivement, j'ai fait des créations où je la représentais, mais non, c'est plus l'énergie qu'elle me donne, qu'elle me véhicule.
Vous pensez qu'on n'utilise pas suffisamment cette énergie de la Lune aujourd'hui dans nos vies modernes ?
Ah oui, carrément, hein. Parce que en fait c'est tout un cycle, hein. Entre la nouvelle lune et le dernier quartier, hein. Donc entre deux il y a le premier quartier, il y a la pleine lune, le dernier quartier, la nouvelle lune. Donc c'est des cycles, hein. C'est un cycle qui est très rapide puisque c'est l'astre le plus rapide de l'univers, hein, puisqu'il fait un tour complet sur un mois, 28 jours. En temps normal c'est 28 jours. Hein. Donc forcément ça nous influence, hein, ça nous influence dans notre vie de tous les jours, hein. Pas que nous, hein, aussi les végétaux, comme on disait tout à l'heure, les marées,
les humeurs, le comportement des gens en général, hein. Il paraît, on entend parfois au boulot, j'ai mal dormi, c'était la pleine lune. Il y en a qui dorment très bien par contre les soirs de pleine lune. Vous êtes comment vous les soirs de pleine lune d'ailleurs, Philippe?
Ah bah moi les soirs de pleine lune, hein, je suis en alerte, je suis éveillé, je suis à l'écoute de mes sens, à l'écoute de l'énergie, j'allais dire cosmique, hein.
Cosmique.
Mais oui, je suis fort, à l'écoute justement de ça, de cette énergie qui nous entoure et qu'on capte pas forcément et qu'on voit pas surtout, mais qu'on ressent. En tout cas, moi, je la ressens.
Et chaque soir de pleine lune, vous ouvrez votre atelier, j'ai vu. Les gens sont curieux, ils se déplacent justement pour ces portes ouvertes un peu différentes.
Oui, ils se déplacent. Et puis quand ils viennent au début, ils viennent, mais on se posait la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont trouver, parce que ça s'appelle les portes ouvertes de la pleine lune, mais souvent les gens ils se disent à quelle sauce ils vont être mangés, tout en sachant que bien sûr, hein, moi je présente un travail artistique, mais bon, souvent les gens me parlent de loup-garou, de choses comme ça. Alors bon, bien sûr, je trouve ça rigolo. Et en arrivant sur place, bon bah ils sont toujours surpris, étonnés de ce qu'ils trouvent, en tout cas de mon travail, parce que bon ils s'attendaient pas du tout à trouver cette qualité de travail et puis surtout cette manière de travailler métal, parce que je travaille le métal d'une manière qui est, j'allais dire, peu courante. En tout cas, personnellement, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui travaille le métal comme je le travaille.
C'est grâce à la lune tout ça, hein. Peut-être.
Oui. Intrinsèquement, j'en ai le sentiment.
Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous ce soir sur France Bleu. La prochaine pleine lune, c'est le 10 mai, c'est la semaine prochaine, donc restez bien à l'affût. Et si vous êtes dans l'Aisne et pas très loin de chez Philippe, il faut aller faire un petit tour pour découvrir les portes ouvertes de la pleine lune. C'est quand même assez incroyable. Merci Philippe.
C'est moi qui vous remercie, Vanessa.
Bonne fin de soirée à vous.
Pour une petite précision.
Oui.
Alors dans l'Aisne, c'est donc dans la Thiérache, c'est à Barzy-en-Thiérache.
À Barzy-en-Thiérache. Voilà. Ok, c'est bien noté. Merci Philippe, au revoir.
Au revoir Vanessa, et merci beaucoup.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Et jusqu'à 22h, on a la tête dans les nuages sur France Bleu et on se dit tout sur le ciel et ses mystères avec vos témoignages. On a parlé de météo, on est retourné à l'école avec Thomas Pesquet, on a évoqué la pleine lune si inspirante et nous allons maintenant parler des orages avec Xavier qui est à Chartres. Bonsoir Xavier.
Bonsoir.
Vous êtes ce qu'on appelle un chasseur d'orages. C'est quoi exactement un chasseur d'orages ?
Alors, un chasseur d'orages, c'est quelqu'un qui est passionné par la météo et plus particulièrement les orages. Et il va s'amuser à courir après pour essayer de croiser leur route.
Mais c'est compliqué de courir après les orages. Comment vous faites ? Comment vous vous organisez ?
Bah, le but du jeu, c'est tout d'abord de commencer à faire une prévision météo pour essayer de se placer à un endroit propice où il va se dérouler les orages.
Ça, on arrive à le savoir quand même suffisamment à l'avance avec les prévisions.
Les prévisions météo ont beaucoup évolué ces 10 dernières années. Et puis maintenant, voilà, sur 10 jours, on arrive à avoir des tendances. Et puis la veille pour le lendemain, on arrive à avoir à l'heure près où va se dérouler les orages. Quoi.
Alors, orages, d'accord. Mais ce que vous aimez, vous, c'est qu'il y ait de la foudre, c'est qu'il y ait de la lumière aussi. Là, on peut jamais trop prévoir à l'avance.
Voilà, donc l'orage lui en lui-même va être facile à prévoir, mais alors la foudre, oui, c'est un peu le hasard. Après, on va avoir des zones, hein, on va dire tiens, la foudre risque de tomber dans cette zone-là. Donc après, on va cadrer les appareils photo dans à peu près ces lieux où on a un risque de foudrement.
Alors, je suis allée faire un petit tour sur votre site hein, pour voir vos photos. Elles sont absolument magnifiques, avec des
Merci.
Éclairs qui déchirent le ciel. Techniquement, comment vous faites pour capturer ces orages?
Alors, il y a deux techniques. Il y a la photo de nuit qui est la plus facile. Donc là, on s'amuse à ouvrir l'obturateur de l'appareil photo. Donc comme pour prendre en photo les feux d'artifice, c'est le même principe. Puis on a vu qu'on est dans le noir complet, on attend que la foudre passe et va illuminer, va marquer le capteur. Et après, il y a la deuxième technique, c'est les foudres de jour. Donc là, on peut pas ouvrir le capteur, sinon la lumière va brûler il y aura trop de lumière, donc ce sera tout blanc. Donc on a un petit détecteur d'éclairs qui se met sur l'appareil et qui va déclencher l'appareil photo au moment où il y a un impact.
Oh, d'accord, malin.
Voilà.
Vous en avez fait votre métier?
Oui, alors j'en ai fait mon métier depuis maintenant, ça fait la cinquième année. Et là, vous tombez bien, là je vais arrêter cette activité pour retourner dans la partie plus passion. Donc j'ai fait une partie pendant 5 ans ma profession, et puis là je vais retourner dans la vie active et vais reprendre une petite la garder en tant que passion.
Parce que quoi, c'est compliqué de gagner sa vie avec ses photos, c'est quoi le...
C'est très compliqué de vivre de sa passion, hein, parce que c'est très onéreux, hein, parce qu'on fait plus de 40 000 km par an, c'est des journées de 30 heures parfois à courir les orages, donc c'est assez c'est contraignant, donc 5 ans, ça a été épuisant.
C'est déjà pas mal.
Voilà.
Ouais. Est-ce que parfois vous avez eu peur, Xavier, sous des gros orages par exemple?
Oui, alors la dernière fois je me suis fait très très peur, c'était on a eu le Grand Colombier où j'ai eu une foudre qui est tombée à 30 mètres, qui était en 2015, en juillet 2015, et là je me suis fait assez peur, c'était lors d'un orage méditerranéen, donc les gros épisodes de Cévenol dans le sud, où en octobre 2014 j'ai eu une foudre qui est tombée à 30 mètres.
Oui.
Donc là, ça a bien secoué.
Ouais. Il y a des endroits plus propices aux beaux orages. Est-ce que la montagne, par exemple, c'est quelque chose qui est encore plus majestueux? Est-ce qu'on sait que dans telle ou telle région de France, par exemple, les orages vont être plus violents que d'autres?
Alors, la violence, c'est plus dans le sud-ouest. Hein. Il y a un axe, souvent, là, on dit l'axe orageux du sud-ouest au nord-est, en passant par les massifs centrales. Et en effet, les orages les plus virulents ont tendance à se former dans le sud-ouest. Et après, les plus esthétiques, c'est vrai que, et les plus nombreux, c'est dans le sud-est, donc dans les Alpes de Haute-Provence.
Où les températures montent très très haut, c'est ça?
Voilà, ouais. Ouais, il fait très chaud, on a la montagne qui favorise la convection des orages, donc et la humidité qui est apportée par la Méditerranée. Donc on a un petit cocktail, un petit ingrédient qui fait que les orages ont tendance à se former plus nombreux dans le sud-est.
Il y a quelque chose de fascinant toujours dans les orages. Ça vous le fait toujours? Ça vous fait toujours ce petit quelque chose, Xavier, à chaque fois?
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est vraiment à chaque fois, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est, comme je vous dis, il y a une partie prévision, donc on sait à peu près dans la zone où ça va se faire, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Donc on peut avoir une foudre qui va nous tomber à 30 mètres alors que c'était pas voulu. Et des fois on se dit on va s'en prendre plein la figure et puis en fin de compte il va pas se passer grand chose. Donc c'est toujours un peu la surprise.
Alors en fait, si jamais on est en vacances avec vous, au moment où il y a un orage, tout le monde flippe et ferme les volets et reste à l'intérieur, vous sortez, vous êtes le gars qui sort pendant les orages en fait.
Exactement, quand les étés sont trop beaux, pour moi on s'ennuie un peu quoi.
Et ben voilà, mais il faut trouver de bonnes raisons aussi quand les éléments se déchaînent. Vous savez ce que vous allez faire après? Vous laissez tomber cette activité professionnelle pour que ça redevienne une passion? Vous partez sur quel secteur?
Alors, je voudrais retourner, garder un peu ce respect dans le domaine de la photo. Donc, j'ai quelques pistes là-dedans. Et puis, sinon, vraiment, voilà. En plus, je vais déménager dans le sud-est. Donc,
Pour les orages.
Voilà, dans la Drôme. Donc, ma retraite photographique pour les orages s'annonce très, très bien. Ouais. Parce que je serai près des zones les plus foudroyées de France.
Merci beaucoup, Xavier, d'avoir été avec nous ce soir sur France Bleu. Et bravo pour vos jolies photos. Où est-ce qu'on peut les voir? Tiens, s'il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, je veux voir comment on fait
». Bah, vous allez sur sur Google ou des trucs de recherche comme ça, les moteurs de recherche. Vous tapez Xavier Delorme, vous allez tomber sur mon site, qui est xavierdelorme.book.fr.
Merci Xavier, bonne fin de soirée à vous.
Merci à vous.
Au revoir.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et c'est un on se dit tout qui fait voyager ce soir, qui fait rêver aussi sur France Bleu. On a la tête en l'air, la tête dans les étoiles, un petit peu dans la lune, comme vous voulez. Le ciel et ses mystères et ses beautés, on en parle avec vous jusqu'à 22h. Et c'est un pilote d'avion qui est maintenant avec nous, c'est Jean-Philippe à Paris. Bonsoir Jean-Philippe.
Bonjour Vanessa.
Vous êtes pilote chez Air France et forcément, j'imagine que quand vous avez décidé de faire ce métier, c'était un petit peu pour voir ce que les autres ne voyaient pas.
Ah oui, il y a un peu de ça. Et puis, je pense qu'il faudrait qu'on creuse un peu sur le profil psychologique des pilotes. Et probablement, il y a un problème. Il y a probablement un rapport avec le père, avec les cieux. Enfin, vous voyez,
ah
c'est
ouais
assez mystique finalement.
Ouais, ouais. Ah oui, quand même, ça va loin là.
Quelque chose. Ouais, ouais. Et je crois qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Et donc, ouais, effectivement, ça va, c'est loin. Ouais. Ouais.
Mmh. Vous vous rappelez votre premier vol, la première fois où vous avez décollé, vous étiez dans le ciel justement.
J'étais effectivement beaucoup plus jeune et effectivement je me rappelle bien mon instructeur à l'époque qui était sur un petit avion évidemment et ça se passait à Meaux et il m'avait dit écoute, débrouille-toi tout seul, allez je descends de l'avion et puis c'est parti, tu fais ton tour de piste. Et effectivement quand on se retrouve tout seul dans l'avion et à mettre les gaz, eh bien, oui, ça fait quelque chose. J'avoue que même en parler maintenant, ça me fait quelque chose.
Ça vous fait encore quelque chose.
Ouais, c'est vrai.
Qu'est-ce qu'on voit quand on est pilote d'avion? Parce que quand on est passager, à un moment donné, on voit qu'on est un peu dans les nuages, après on ne voit plus grand-chose. Mais vous, qu'est-ce que vous voyez?
En fait, avec le ciel, il est tout le temps en train de faire son show. Il a des trucs qui sont extraordinaires. Hein. C'est du style des spectacles, du style aurore boréale, où là, c'est un voile vert là qui vient vous jouer avec vous,
vous envelopper un peu.
Ouais, mmh. Vous caresser l'avion et voilà, c'est totalement magique. Quelquefois même presque angoissant parce qu'on se dit mais c'est quoi ce truc? Enfin bon bref. Et ensuite on a les étoiles filantes, les orages, évidemment les orages qu'on voit surtout notamment dans le en Afrique avec le front intertropical ou le poteau noir ou en Asie du Sud-Est également et donc effectivement il est tout le temps en train de faire son show et puis il est aussi on est tout le temps en négociation avec lui hein. Des fois il nous autorise à passer, d'autres fois il nous autorise pas hein. Il nous fait faire des détours, il joue avec nous.
Et puis parfois on voit rien aussi, c'est pas un peu flippant ça de se dire on est si haut, on va si vite et on sait pas trop où on est?
Ouais, c'est vrai. Alors avec l'habitude, c'est vrai que on y fait un peu moins attention parce que les nouvelles technologies nous permettent d'avancer sans voir tout en voyant. Mais effectivement, ouais, c'est quelquefois un peu, notamment les atterrissages, par exemple, ce qu'on appelle les atterrissages catégorie 3, c'est-à-dire que sans visibilité, où là c'est l'avion qui va nous poser, c'est le système embarqué, et effectivement on se pose comme une fleur sur une piste qui est pas large hein, finalement, et ça se passe vraiment bien et on voit rien, on voit vraiment rien.
Ouais. Vous êtes toujours, j'ai l'impression hein, quand je vous entends, vous êtes toujours émerveillé à chaque fois que vous êtes là-haut.
Voilà, tout le temps. On est tous un peu comme des gamins. On est toujours émerveillés par un lever de lune, un coucher de soleil, lever de Vénus. Et on a l'impression d'ailleurs quand Vénus se lève qu'elle nous fait des appels de phare.
C'est beau ça.
Au départ, ouais. Elle dit coucou, bonjour, et elle nous fait des appels de phare. On a presque envie de lui répondre en lui faisant aussi des appels de phare. Non, mais c'est vrai que c'est un jardin où ouais, c'est un jardin où vraiment c'est sympa quoi. C'est notre bureau en fait. Hein.
Oui. C'est là où on vit. Ouais, c'est un joli bureau hein, qui bouge tout le temps. Ouais. Est-ce que les jeunes pilotes, ils ont cette excitation de voir ce que les autres ne voient pas ? Vous nous avez raconté votre premier vol, mais est-ce qu'ils vous disent j'ai hâte de voir justement les aurores boréales, de voir les étoiles, de voir tous ces phénomènes dans le ciel qu'on voit pas quand on est à terre ? Ils en parlent les jeunes pilotes ?
Ah oui, mais ça c'est oui absolument. Mais quand on est pris par la passion, le virus de l'avion et du ciel surtout, ça nous lâche pas. Hein. J'imagine que c'est un peu comme les navigateurs avec la mer. C'est exactement la même chose. C'est quelque chose qui vous prend et qui vous lâche jamais, jamais.
Vous avez pris des photos parfois. On a le droit ou pas?
Ah oui. On prend des photos. Oui, j'ai des super photos d'orage et avec une sorte d'éclairage intérieur du nuage, du cumulonimbus, hein, et qui est totalement, c'est extraordinaire, c'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art.
Ouais. Bah, c'est fou, comme vous en parlez, je pense qu'on ne prendra plus l'avion de la même façon. Pourquoi nous, on ne voit pas tout ça ? C'est pas juste, hein, d'ailleurs. On nous demande de fermer les hublots pendant la nuit, on nous demande de...
Ouais. Hein, ouais, ce qui serait,
on pourrait pas avoir des caméras, des choses ?
Mais bien sûr, c'est ça qu'il faudrait, mais je pense que les avions, à terme, ce sera un peu ça, c'est que on va ouvrir... le toit sera une grande vitre et puis les gens
pourront
voir. Je pense que on va vers ça de plus en plus parce qu'on va ouvrir. D'ailleurs, les hublots des nouveaux avions sont beaucoup plus sont plus grands.
Déjà ? Ah ouais, je savais pas. Ouais. Ils sont gros vos avions que vous pilotez vous, Jean-Philippe ?
Oui, c'est des gros avions. Il y a 500, un peu plus de 500, ouais, 400 passagers, 400,
ah oui.
Pas loin des 500 passagers. Oui.
Ouais.
C'est des Boeing 777. Je suis là-dessus.
C'est énorme.
C'est énorme, oui. Ah oui, c'est des gros moteurs.
Le jour où vous ne volerez plus, alors j'espère le plus tard pour vous, évidemment, mais comment vous allez faire pour garder cette magie du ciel, de tout ce qui se passe là-haut ?
Bah, j'irai faire du petit avion, ou alors, je pense que je ferai du petit avion, du planeur.
Mmh.
Ouais, ça c'est bien.
Pour garder un peu les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu
ça. La tête dans les étoiles. On en a besoin. Hein.
Bah oui, il faut, ça fait du bien. Merci beaucoup Jean-Philippe pour cette description très poétique de ce qui se passe là-haut, en avion, en tant que pilote. Merci encore d'avoir été avec nous sur France Bleu.
Merci Vanessa, ça m'a fait plaisir.
Bonne fin de soirée.
Au revoir.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout.
Les mystères du ciel, la beauté du ciel, les sciences aussi du ciel, on en parle ce soir sur France Bleu et on se dit tout avec vous qui en avez fait votre passion ou votre métier. On va parler de métier, tiens, justement, avec Isabelle à Montpellier. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Vanessa.
Vous êtes astrologue et forcément, c'est un rapport avec tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Vous partez du constat que lorsqu'on est, les planètes sont alignées d'une certaine façon et que ça en dit beaucoup sur nous, c'est ça ?
C'est ça, bah c'est un peu le métier de l'astrologue. Je crois qu'on ne devient pas astrologue par hasard. On a un lien, j'ai envie de dire, on se sent lié à ce ciel, mais aussi à cette terre. Hein. Les deux sont pas séparés les uns des autres. Et donc, ce fameux thème natal, où certains auditeurs ont peut-être rencontré un astrologue pour le faire, bah c'est une sorte de photographie. Voilà. Alors, alignement planétaire, c'est peut-être un grand mot, parce que alignement planétaire, je sais pas ce qui pourrait se passer, mais en tout cas, c'est le thème, il représente un peu une photographie à notre naissance, comme si on s'était penché sur le berceau du bébé à son premier souffle, et tac, on a pris une photo, et voilà, où sont positionnées les planètes à cet instant T. Ça donne une configuration particulière et si singulière à chacun, on n'a pas tous les mêmes vies, heureusement, mais ça donne aussi des tonalités, un caractère, un tempérament, et puis, des expériences de vie qui vont être proposées après à la personne, ça s'appelle son chemin de vie ou sa vie, tout simplement, et puis là, ça va être mouvement après.
Mais
il y a
ça
rien
veut dire
qui est
qu'il y a
figé,
des...
qui est statique, en fait.
Ça veut dire qu'il y a des planètes qui sont plus influentes, par exemple, sur nous, sur nos caractères, sur notre évolution ?
Oui, alors, en astrologie, sans rentrer trop dans la technique, donc l'astrologue arrive avec sa boîte à outils, hein, comme un plombier avec ses outils, ses pinces. Alors l'astrologue, il va avoir les planètes, il va avoir les maisons, il va avoir les signes, il va devoir traduire un peu, se faire l'interprète de tout ça. Et effectivement, parmi toute cette panoplie d'outils que sont les planètes, un peu les actrices majeures de cette scène-là, c'est comme un peu un théâtre, il y a des planètes qu'on appelle personnelles, donc ils vont vraiment venir nous... nous parler de la personne, de son monde intime. Donc Mercure, c'est comment je communique, quelle est ma manière de communiquer avec les autres. Vénus, bah, c'est l'amour, comment j'aime et comment je suis aimée. Mars, comment je me mets en mouvement, en action. Jupiter, lui, et Saturne sont un peu plus éloignés, donc on est moins dans les dimensions personnelles. On est plus sur la place que je vais occuper dans la société, par exemple. Pour quel métier je suis fait ou pour quel type d'activité.
Super intéressant.
Voilà. Et après, on a des planètes, ça c'est hyper intéressant par rapport à ce qu'on vit, non pas à l'échelle de l'humaine, mais plus grande. C'est les transpersonnels avec Uranus, Neptune, Pluton qui viennent pas influer directement la personne parce qu'elles sont beaucoup trop éloignées dans le système solaire, mais elles sont quand même intégrées. Mais là, elles viennent impacter sur des générations et du coup des civilisations. Donc c'est des valeurs qui sont un peu différentes d'une génération à l'autre en fait et qui font que bah, des fois les jeunes s'entendent pas trop bien avec les plus âgés. C'est parce qu'il y a une manière de faire qui est pas la même. Et donc voilà, toutes ces planètes là. Eh bien, elles influent sur nous et nous-mêmes. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est un système solaire à part entière, tout seul, à titre individuel, mais qui s'intègre dans un grand système solaire. Tout ça est lié.
Mais les gens confondent parfois l'astrologie et la voyance, ça n'a rien à voir.
En fait, j'ai envie de dire, c'est pas que ça n'a rien à voir, parce qu'il y a des astrologues qui vont être orientés... entre guillemets, voyeurisme, qu'est-ce qui va se passer demain dans le côté prédictif, en fait. Donc, ça voudrait dire qu'il y a, on a peu de libre arbitre, que tout est déterminé. Et il y a d'autres astrologues qui vont laisser plus la porte ouverte. C'est l'astropsychologie, à vraiment aller voir le monde intérieur. On est sur un chemin d'évolution. J'allais dire, ça existe aussi. On va pas se mentir, ça existe. Mais on peut faire vraiment autre chose de l'astrologie et l'avoir comme un outil qui nous permet de nous réguler, de nous caler au rythme des saisons, parce que ces saisons font partie de la nature et de notre aussi, de nous réguler, de nous ajuster. Mais chacun va faire l'astrologie en fonction de ce qu'il est, de ses œillères aussi. Hein. On trouve tout et son contraire. Hein.
Comment vous faites pour travailler tout ça, Isabelle ? Est-ce que ce sont des données qui ont été enregistrées depuis des milliers d'années ou est-ce que ça change parce qu'on sait que les planètes elles bougent, par exemple ?
Alors, si vous voulez, on dit souvent l'astrologie c'est une science. Non, c'est une science de l'être humain. Oui, d'accord, mais c'est pas une science au sens scientifique. En même temps, il est vrai qu'on s'appuie sur des données fournies par des éphémérides qui sont imprimées par la NASA. Enfin, il y a tout un côté. On s'appuie sur l'astronomie qui, elle, vraiment va observer, dater, caler les dates des mouvements là. Donc ça, on est obligé de s'appuyer dessus. En revanche, l'astrologue, il ramène une dimension. On peut appeler ça des croyances, mais en tout cas, c'est tout l'imaginaire qu'on a autour de la symbolique des planètes. Du coup, on fait un mélange des genres entre les deux. On s'appuie sur des données techniques et en même temps, on vient les traduire à partir des symboliques, de la mythologie, tout ce qu'on y connaît. Et l'idée, c'est de faire un peu une traduction de tout ça. Donc, c'est vraiment un travail d'analyse et de traduction. On est un peu interprète, en fait, dans notre posture.
Merci beaucoup, Isabelle, d'être venue nous parler de votre métier, de nous faire comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne aussi, même si là, c'était court et qu'il faudrait peut-être encore une émission entière consacrée à l'astrologie. Allez savoir.
En tout cas, tout ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a des parts de mystère qu'on n'expliquera pas et c'est peut-être ça aussi la magie de la vie. Voilà. Donc on y croit, qu'on n'y croit pas, ça rend les choses aussi un peu magiques. Ça fait du bien. Merci à vous.
Bonne soirée, Isabelle.
M'avoir contacté. Au revoir, bonne soirée.
Au revoir.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Qui n'a jamais rêvé de conquérir l'espace, de marcher sur la Lune, de voler, de toucher les étoiles, d'aller voir ce qui se passe sur Mars, pourquoi pas ? Eh bien, ce soir, on partage quelques-uns de vos rêves sur France Bleu et on se dit tout sur le ciel et ses mystères, ses beautés aussi. Et c'est un astronome amateur qui est maintenant avec nous. Il s'agit de Dominique en Haute-Savoie. Bonsoir Dominique.
Bonsoir.
Alors astronome, c'est pas astronaute, hein, on est d'accord.
On est d'accord.
Expliquez-nous la différence.
Oui. Bah, les astronautes, ils vont dans les fusées, ils vont éventuellement aller dans les stations spatiales ou marcher éventuellement sur la Lune, mais les astronomes, ils restent sur Terre et ils observent, ils mesurent, éventuellement ils photographient les astres.
Alors à quel moment, vous avez commencé à être passionné par les planètes, le système solaire ?
Bah, c'est vrai que, comme beaucoup d'astronomes amateurs, on va dire, c'est une passion qui remonte à l'enfance. Et puis, j'ai toujours lu, depuis tout petit, des livres, vu des films sur ce thème-là. Et puis c'est vrai qu'à passer la trentaine, là je me suis offert mon premier petit télescope et après ça a été le virus qui me tient depuis 10 ans, 12 ans maintenant.
Ouais. Le premier télescope, même aussi petit soit-il, vous avez vu, qu'est-ce que vous avez vu la première fois où vous êtes dit waouh, je vois un truc que j'aurais jamais pu voir autrement?
Bah alors la première fois j'ai rien vu parce que la plupart du temps on n'arrive pas au début à régler ou à diriger où on veut le télescope, mais la première vraie observation, c'était la Lune. Et déjà, la Lune, avec un tout petit télescope, on voit des détails absolument fabuleux. C'est-à-dire on voit des cratères, on voit des crevasses, on voit des reliefs de manière très 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 détaillée, quoi. Mmh. Effectivement.
Et aujourd'hui, vous êtes allé beaucoup plus loin dans le matériel, alors j'imagine,
alors,
en 12 ans.
Un petit peu plus loin, parce que certains, le matériel peut être assez onéreux, mais disons que là, j'ai un télescope de 200 mm de diamètre. C'est un télescope qui, pour un amateur, permet de faire beaucoup, beaucoup d'observations.
Vous pouvez observer et photographier en même temps? Comment ça se passe?
Observer et photographier, effectivement.
Waouh.
Mais alors ça demande un matériel un peu plus sophistiqué, mais il faut savoir que commencer l'astronomie, enfin moi quand ce que j'appelle commencer l'astronomie, une paire de jumelles toute simple et une carte du ciel et une vue, j'allais dire normale, suffit, hein, en fait.
Mmh. Qu'est-ce que vous préférez observer, vous, Dominique? C'est plus, alors vous nous parliez de la Lune, est-ce que vous allez voir un petit peu ce qui se passe sur les autres planètes? Est-ce que vous regardez les étoiles, les constellations? Comment vous y allez, ouais, un peu au hasard, ou vous partez dans un but bien précis?
Alors, souvent, on a quand même un objet bien précis à observer, c'est-à-dire soit il y a des périodes où les planètes sont plus facilement observables. Par exemple, en ce moment, il se trouve que ce mois d'avril 2017, Jupiter est très près de la Terre. C'est le mois de cette année où il est le plus proche de la Terre. Alors, par exemple, si vous sortez ce soir à la nuit tombée, vous regardez plein sud, vous allez voir une grosse boule jaune très brillante, et c'est Jupiter.
Et ça, on peut l'avoir à l'œil nu, pardon.
Parfaitement à l'œil,
ah,
nu.
Oui. D'accord.
Les principales planètes, Jupiter, Saturne, Mars, Vénus, se voient à l'œil nu.
Et quand vous les regardez au télescope, qu'est-ce que vous voyez? Par exemple, Jupiter, ça ressemble à quoi? Vénus, ça ressemble à quoi? Mars, on a quelques infos, mais...
Alors, quand on regarde Jupiter à l'œil nu, on voit tout simplement une grosse boule jaune. Si on prend ne serait-ce qu'une petite paire de jumelles, on va voir le globe de la planète et on peut déjà voir 3-4 points brillants autour d'elle. Ce sont ces 4 plus gros satellites qui se voient avec une simple paire de jumelles.
Waouh! Et alors, avec le télescope, ça doit être
énorme.
Alors,
avec le télescope, on observe le globe de la planète et on voit relativement facilement les bandes nuageuses de la planète. C'est-à-dire, on voit généralement 2 bandes marron à la surface de la planète.
Mmh. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ça? Vous vous dites, c'est près et c'est loin en même temps. Un jour, peut-être que j'irai. Un jour, peut-être qu'on pourra y habiter.
Alors, y aller, non, sûrement pas. Ça paraît assez impossible. Par contre, effectivement, c'est toujours une émotion assez particulière, oui, de voir ces objets. Et je pense par exemple à Saturne. En général, les astronomes amateurs, la première fois qu'ils ont vu Saturne, ça reste gravé dans leur mémoire.
Et on voit vraiment les anneaux de Saturne.
On voit très bien les anneaux avec un tout petit télescope. Généralement, les petits télescopes, c'est ce qu'on appelle les télescopes de 115 mm, on voit parfaitement les anneaux de la planète. Et ça, c'est quand même une image qui reste assez gravée dans les mémoires.
Ça vous rappelle quand vous étiez petit garçon dans vos livres de l'époque?
Ben, à la fois ça et à la fois... parce qu'il n'existe pas grand-chose qui ressemble à Saturne, hein, dans le ciel.
Ouais.
Donc, c'est quand même un objet très particulier, Saturne, et ça marque assez l'esprit, quand même.
C'est votre préféré?
C'est oui. En termes de planète, oui. Oui. En termes de planète, Saturne, oui, effectivement.
Alors, parce qu'à part les planètes, qu'est-ce que vous regardez?
Alors, à part les planètes, donc, il y a ce qu'on appelle dans le langage des astronomes amateurs tous les objets du ciel profond, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors du système solaire. Alors, ce qu'on observe, ce sont des amas d'étoiles, c'est-à-dire des groupements d'étoiles. Alors, il y a ce qu'on appelle des amas ouverts, ce sont des étoiles jeunes qui forment des groupements d'étoiles, ou alors il y a ce qu'on appelle des amas globulaires, qui sont des ensembles de vieilles étoiles très très concentrées, qui sont concentrées, qui forment des centaines, des milliers, certains des dizaines de milliers d'étoiles, qui ressemblent à des grosses boules floues, et on peut distinguer ces objets. Ça, c'est les premières sortes d'objets. Il y a les nébuleuses. Mmh. Alors, les nébuleuses, c'est des ensembles gazeux qui sont un peu plus difficiles à voir, mais il y en existe énormément dans le ciel. Alors, à l'œil nu, c'est assez difficile à voir, mais on en connaît quelques-unes, comme il y a une célèbre nébuleuse, la nébuleuse d'Orion, qui est la nébuleuse la plus brillante du ciel qu'on puisse voir dans l'hémisphère nord. Et celle-ci se voit avec une paire de jumelles aussi. Si on pointe une paire de jumelles à son endroit, on voit une tache gazeuse.
Ça fait plusieurs fois que vous nous parlez des jumelles, Dominique. Je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent « mais moi, j'aimerais bien essayer ». C'est quoi le budget pour démarrer, par exemple, une bonne paire de jumelles, un premier télescope ?
N'importe quelle paire de jumelles, pas très grosse. Et vous pouvez faire l'expérience, vous regardez le ciel à l'œil nu, et après vous braquez au même endroit une paire de jumelles. Et vous allez voir beaucoup plus d'étoiles qu'à l'œil nu.
Ouais, ça vaut le coup de regarder, hein.
Oui. Surtout, c'est notamment très spectaculaire, excusez-moi, oui.
Surtout, je dis, avec l'été qui va arriver, les étoiles filantes, ça va
être
assez génial.
Justement, l'été, c'est très spectaculaire, parce que l'été, vous avez la fameuse voie lactée qui passe dans le ciel, où vous voyez une espèce de zone blanchâtre quand le ciel est noir, qui est en fait notre galaxie vue par la tranche. Et quand vous pointez une paire de jumelles sur cette zone-là, vous voyez un nombre incroyable d'étoiles qu'on ne distingue pas à l'œil nu.
Dominique, merci de nous avoir fait rêver comme ça. C'est fou. On est là ce vendredi soir et puis on a vraiment la tête dans les étoiles grâce à vous. Merci encore d'être venu nous raconter cette passion que vous avez pour l'astronomie. Bonne fin de soirée, Dominique.
Au revoir. Bonsoir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Et jusqu'à 22h, on vous écoute nous parler de choses incroyables qui se passent au-dessus de nos têtes, des phénomènes tout à fait naturels, hein, comme les orages, comme la météo, d'autres plus scientifiques, comme l'astrologie, des choses très belles à observer, comme les planètes, comme le ciel qui change, et puis d'autres peut-être un peu plus compliquées, confidentielles, comme par exemple les ovnis. Eh bien, on va en parler avec un passionné, il s'agit de Geoffrey dans les Deux-Sèvres. Bonsoir Geoffrey.
Bonsoir Vanessa.
Comment ça a commencé pour vous cette fascination, on peut le dire, pour les ovnis ?
Alors, je dirais que déjà depuis tout petit, je suis assez attiré par tout ce qui est mystère, hein, tout ce qui est secret, tout ce qui nous est caché au final. Et je me souviens même qu'un jour, je me suis fait la réflexion étant enfant que si je pouvais justement réaliser un vœu, bah, ça serait de découvrir ce qu'il y a derrière les dossiers classés de top secret. Hein. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'on peut bien vouloir nous cacher ? Et puis, couplé à ça, j'ai le sentiment depuis toujours qu'on n'est pas vraiment seul dans cet univers, hein, que ce serait même bête de penser le contraire. Et du coup, ma curiosité et mes recherches m'ont par la suite permis de confirmer mon sentiment.
Mais vous en avez déjà vu, vous, des ovnis ?
Alors, personnellement, non, pas en direct. Après, j'ai un ami qui m'a raconté en avoir vu une nuit, alors qu'il était sur la plage. Hein, il a vu une boule de lumière, comme on voit assez souvent d'ailleurs en vidéo, assez haute dans le ciel, qui s'est mise à bouger, qui s'est arrêtée, qui a changé de sens à 90 degrés. Hein, aucun engin connu du grand public, d'ailleurs, n'est en mesure de faire à l'heure actuelle. Et je sais que des pilotes ont déjà témoigné d'ailleurs sur des cas similaires. Hein.
Alors, comment on fait, Geoffrey, pour se passionner pour quelque chose qu'on n'a jamais vu et qu'on ne voit pas ? C'est ça un peu qui m'interpelle.
Oui, alors après, vous savez, il y a beaucoup de choses qui échappent à nos cinq sens sans pour autant dire que ça n'existe pas. Hein. Je fais pas partie de ceux qui ont besoin de voir pour y croire. J'ai l'esprit plutôt ouvert. Hein. J'ai toujours été attiré par l'invisible et par l'inexpliqué. Et bon, voilà, j'ai mes convictions. J'ai fait mes recherches après pour me permettre de confirmer que leur existence, bah, c'est pas de l'ordre du fantasme, mais bien une réalité.
Quand vous dites j'ai fait des recherches, on cherche ça où d'ailleurs ?
Alors, il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de témoignages effectivement sur le sujet. Hein. Si on regarde déjà loin dans le passé, auprès des anciennes civilisations, on retrouve déjà des traces, hein, que ce soit chez les Mayas ou même les Égyptiens. On a effectivement des traces de choses assez particulières, sans compter déjà les connaissances très poussées qu'ils avaient eux-mêmes sur l'astronomie. Hein. Ils entretenaient un lien particulier avec le cosmos et je pense certainement d'autres civilisations. Après, plus à notre époque, on a des témoignages déjà de milliers de personnes, hein, des simples citoyens, aux pilotes de ligne, des anciens officiels aussi. Je pense notamment au premier ministre russe Medvedev, ou bien encore l'ancien premier ministre d'ailleurs de la Défense du Canada, Paul Elier, hein, qui en parle ouvertement depuis quelques années, et c'est pas n'importe qui. On pourrait parler de plein de choses, on pourrait parler des crop circles qui représentent des formes géométriques très complexes dans les champs de céréales.
Oui, c'est très beau d'ailleurs.
Difficilement, très très beau, magnifique, c'est difficilement réalisable par des humains, et il apparaît d'ailleurs en l'espace de quelques secondes, donc ça c'est également un phénomène inexpliqué. Bon après, voilà, tout ça c'est grâce à Internet, on retrouve maintenant beaucoup de choses. Alors oui, je sais que parmi tout ça, il y a ce qu'on appelle des fakes, hein, des choses qui sont créées de toutes pièces, c'est évident. Mais je me suis fait une réflexion aussi là-dessus, c'est que si parmi toute cette documentation, il existerait ne serait-ce qu'un seul document, une photo, une vidéo qui serait réelle, ça serait quand même suffisant pour justifier la preuve de leur existence.
Alors vous nous parliez de cette ministre canadienne, mais elle parle, mais comment ça se fait que personne n'ait encore formellement prouvé leur existence, qu'on n'en parle pas plus, qu'on se dise pas, bah oui, effectivement, il y a des extraterrestres, il y a des ovnis, c'est normal, et que ce soit encore caché, si tant est que ça existe.
Oui, disons qu'il y a des preuves, mais que c'est un gros effort de désinformation qui est fait. Hein. C'est maintenu pour garder ça sous silence, malheureusement. C'est un sujet qui est hautement contrôlé.
Mais pourquoi qui bloque l'information?
Je dirais les instances dirigeantes, les personnes qui gèrent le monde et qui souhaitent ne pas forcément divulguer ces informations qui bousculeraient beaucoup de choses. Hein. Je pense que c'est un sujet qui, lorsqu'il sera d'ailleurs divulgué un jour, fera l'effet d'une bombe dans la population mondiale, parce que ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il y a des contacts qui existent avec plusieurs gouvernements. Je pense sincèrement que dans les années à venir, la vérité va éclater et du coup, ça sera un peu l'heure de rendre les comptes, hein, je dirais. Et c'est vrai que ça bloque, on n'en parle vraiment pas plus.
Mais pourquoi ça serait compliqué? Pourquoi ça ferait l'effet d'une bombe?
Alors, je pense
ils sont méchants, ils sont gentils, ils sont... Enfin,
non, mais je pense que du coup, on pourrait se poser beaucoup de questions qui seraient plus vraiment terre à terre. Ce genre d'information, c'est vraiment préservé, je dirais, par une élite, car il s'agit des connaissances assez intéressantes et que ça pourrait bouleverser l'ordre établi. Quand on a étouffé les connaissances d'ailleurs sur l'énergie libre depuis Tesla, hein, ça fait déjà un moment qui pourrait nous défaire des énergies fossiles, de l'électricité, mettre en péril plusieurs industries. Donc on maintient des connaissances, je dirais, sous scellé pour garder sous contrôle notre développement. Et il y a beaucoup de pression, beaucoup d'efforts qui sont maintenus sur les gens qui osent parler. Hein. D'ailleurs, je rappelle que dans l'affaire Roswell, ils ont d'abord annoncé le crash d'une soucoupe avant de revenir quelques instants après sur l'information et de dire que ben non, en fait, il s'agissait d'un ballon, voilà, d'un ballon tout simple, hein, tout en tournant au ridicule l'histoire d'extraterrestres. Et puis dire qu'il existe d'autres espèces qui voyagent comme ça à travers l'espace avec des technologies dont ils ont accès, ça engagerait beaucoup de questions auxquelles ils n'ont pas forcément envie de répondre, je pense. Et puis, il y a malheureusement un lien fort entre la politique, les industries, le complexe militaire. Et toutes ces connaissances récupérées, je pense qu'elles sont d'abord utilisées par l'élite hein, pour développer le contrôle. Et Eisenhower, d'ailleurs, en parlait aussi à la fin de son mandat aux États-Unis, comme quoi il voulait mettre le spot un peu sur le complexe militaro-industriel qui prenait de l'ampleur là-dessus. Donc, je pense qu'il y a une guerre de la connaissance, en fait, qui se joue. Et c'est plus simple de contrôler les masses à travers l'ignorance. Hein. Donc je pense vraiment qu'il y a une volonté de préserver et des raisons très égoïstes qui poussent à rien divulguer en fait dans l'immédiat. Mmh.
Geoffrey, est-ce que vous y pensez parfois quand vous regardez le ciel? Est-ce que vous dites on n'est pas tout seul? Et est-ce que vous rêvez aussi peut-être qu'à un moment il y a une vision, un échange aussi avec les extraterrestres?
Bien sûr, j'y pense régulièrement. Et c'est vrai, je dirais même comment ne pas y penser quand on voit l'immensité du cosmos et quand on voit comment on est tout petit. Ce serait une prétention de penser qu'on est seul et qu'on serait les seuls êtres vivants et conscients. Parce qu'on a beaucoup de choses, je pense, encore à apprendre, beaucoup de choses à développer dans notre conscience. Et oui, je pense régulièrement aux autres formes de vie qui peuvent peupler le cosmos. Et en même temps, ça fait du bien de savoir qu'on ne serait pas les seuls dans cet univers.
Nous, on a plein d'extraterrestres ici à France Bleu, je vous le dis clairement. Merci beaucoup, Geoffrey, d'avoir été avec nous,
plaisir.
Passionné donc par les ovnis. Et peut-être qu'un jour, on en saura effectivement un petit peu plus. Bonne fin de soirée à vous, Geoffrey.
Merci également.
Au revoir. Bonjour.